Bonsoir. Merci d'être venu accueillir avec nous Alan Massy, qui nous vient d'Écosse, qui est venu donc de loin pour nous présenter son dernier roman, Printemps noir à Bordeaux, qui, comme son titre l'indique, va nous parler de notre ville dans une période un peu particulière, puisque le roman s'ouvre en 1940. Nous sommes au début dans un policier, roman policier, j'ai envie de dire, traditionnel. Un crime a été commis et le détective vient enquêter. Ce corps est retrouvé dans une rue près de la gare Saint-Jean. Le détective connaît cette personne, connaît son identité. Et c'est à partir de là, de ce moment, que tout commence. Mais la période va faire que le roman policier va peut-être prendre plutôt un aspect politique, mais tout en essayant, ce détective va malgré tout essayer de faire son travail de policier. Et à travers cette enquête, en tout cas, nous allons découvrir beaucoup d'aspects de Bordeaux pendant la guerre, mais aussi de la France. Merci Alan Massy d'être venu avec nous pour nous présenter ce livre.
Oui. Je vous en prie, pardon, que ce jour-ci, je le trouve très difficile de parler en français. Je ne suis pas souvent en France et maintenant, quand j'essaie penser et parler en même temps, je m'habitue comme un imbécile. Alors, pour commencer, je vous lirai quelque chose que j'ai écrit en français, et puis peut-être ce qui reste de l'interview en anglais avec ma traductrice. Alors, il arrive souvent que l'idée d'un roman s'insinue chez un écrivain lors d'une période de vide. Et c'est ce qui est arrivé pour le premier volume de mon quatuor bordelais. J'aspirais vaguement à écrire un roman policier, peut-être un hommage à Simenon. Mais cette aspiration restait juste ça, une aspiration sans but précis. Entre-temps, j'avais travaillé à un essai, Le spectre de Vichy, dans lequel je voulais étudier non seulement le régime de l'État français, mais son influence sur la vie de la France après la guerre, et pour 50 ans après la guerre. Et aussi presque 30 ans. Il y a presque 30 années, j'ai écrit un roman sur Vichy, L'honneur d'un homme, dont certains pensent qu'il s'agit de mon meilleur roman. Alors, c'est des pistes. Vichy et le roman policier se sont mêlés. Ce qui me fut d'autant plus agréable que le spectre de Vichy est devenu un travail de Sisyphe sur lequel je ne cessais de revenir, toujours insatisfait avec l'impression que je me perdais dans une forêt obscure. Alors, le roman policier me donnait une occasion de m'en sortir, m'offrait un moyen de sonder certains des doutes qui me troublaient. Lorsqu'on est fasciné par l'ambiguïté, lorsqu'on s'intéresse au dilemme moraux, Vichy, en 1940, est un bon point de départ. Pourquoi Bordeaux? Pourquoi? La première réponse, et la plus simple, est qu'il me fallait une ville qui se trouva en zone occupée, mais qui ne fut pas Paris. Alors, Bordeaux. La deuxième, c'est que Bordeaux me paraissait une ville dotée d'un sens certain de sa propre identité, et dont les habitants observent une certaine réserve. La troisième, c'est que j'avais lu avec admiration un certain nombre de romans de Mauriac. Un roman policier doit avoir un policier pour héros. Mon Jean Lannes, nom d'un maréchal napoléonique, doit quelque chose à Maigret, à qui il ressemble par son honnêteté et son humanité, et par la conscience qu'il a que la loi et la justice ne sont pas toujours synonymes. Son couple est moins sereine que celui de Maigret, car sa femme n'aime pas son travail et qu'il lui arrive même de les mépriser. À la différence de Maigret aussi, Lannes est un père. Il a un fils aîné, Dominique, parti pour le front, qui a un sang élevé du devoir et qui est croyant comme sa mère. Et aussi deux jumeaux, Alain et Clotilde, en dernière année de lycée. Lannes lui-même est un vétéran de la Première Guerre. Il a combattu à Verdun, il a été blessé, il respecte le maréchal Pétain et même il l'admire, quoique lui-même soit un radical, un homme de la République et non pas de l'État français. Alors, ce premier roman, Printemps noir à Bordeaux, débute lors des dernières semaines de la drôle de guerre, avec un meurtre sinistre et la demande faite à Lannes à découvrir l'auteur de lettres anonymes adressées au comte Grimaud, un vieillard pervers. Il y a d'autres morts, les deux affaires se croisent, l'occupation allemande commence. Lannes, inquiet pour ses enfants, se trouve perdu dans un labyrinthe. Un voyage à Vichy, où l'un des enfants du vicomte et ministre lui apprend que la politique corrompt l'intégrité du travail de la police. Finalement, quand j'y repense, je me rends compte que dans ce roman, je cherchais mon chemin, que je posais des marques pour une suite possible, sans être certain qu'il y en aura une. En effet, ils sont trois.
Merci beaucoup. On va malgré tout revenir sur pas mal de points que vous venez d'aborder. Déjà, ma première question, celle que je vous posais tout à l'heure en off, à savoir, donc nous sommes le roman, comme je le disais tout à l'heure, s'ouvre en 1940. Donc la guerre a commencé, mais la France n'est pas encore envahie. Il paraît un peu inconcevable que la police puisse, à ce moment-là, mener ses enquêtes normalement, entre guillemets. Donc, est-ce qu'il était possible pour la police d'effectuer son travail?
Yes. Was the police able to work properly? At first, in the first year, perhaps, of the occupation. Yes, and it would depend on what sort of crimes they were investigating. If they were normal criminal activity, yes. If there was a political element, no. But Vichy, of course, changed over the... It evolved over the years. And as you will all know better than I'm sure. And the first year... or so of the occupation, the Germans were at least trying to behave, as they've said, in a proper fashion. So the occupation became more severe, and the more severe the occupation became, the more difficult it was for the police to work properly. And of course, many of the police themselves were divided. So many of them were strong adherents of Vichy, and many were not. And Lannes himself is always doubtful.
Alors, en effet, pendant la première année de l'occupation, la police pouvait encore à peu près effectuer un travail à peu près normal, et encore cela dépendait bien sûr des crimes, puisqu'à partir du moment où il y avait un élément politique impliqué, ce n'était plus possible. Mais évidemment, et comme vous le savez plus que moi, le Vichy a évolué avec les années. Puisqu'en effet, la première année, les ministres essayaient, en tout cas, c'est ce qu'ils disaient, de se comporter correctement. Et évidemment, c'est devenu de plus en plus difficile avec les années pour la police de faire correctement son travail. Et la police, d'ailleurs, elle-même a été divisée en son sein. Et c'est aussi le cas du personnage de Jean Lannes, qui lui-même est toujours rempli de doutes quant à son obédience.
Savez-vous s'il existe encore à l'heure actuelle des archives, des rapports d'enquête sur lesquels vous vous êtes peut-être appuyé d'ailleurs pour écrire vos romans? Et si vous ne vous êtes pas appuyé dessus, comment avez-vous vous mené vos recherches pour l'écrire?
I imagine they do still exist in the archives. But not these crimes, because these crimes are imaginary. But I would imagine that, in fact, I know that if you go through the archives, you will find the records. There is a book which I use quite a lot of Bordeaux, 1944. Which is full of information about the work of the police, the work of the German police, the Gestapo, and the work of, and of course, their war against the resistance. What one has to remember is how Vichy evolved over the years, becoming less of a national government and more of a German client. I mean, at first, Vichy retained a good deal of independence, which became less as the war went on. And of course, after the North African landings, in effect, the Vichy government was merely a ghost of a government, a specter.
Alors oui, en effet, je le sais de sources sûres, il existe encore des archives de ces crimes, enfin pas de celui qui est mentionné dans le livre, puisque c'est bien sûr un crime imaginaire. Si on va dans les archives, on retrouve des traces de ces crimes, et notamment, je le sais grâce à un livre que j'ai beaucoup consulté pour écrire ce roman, qui s'appelle Bordeaux 40-44, et qui est effectivement plein d'informations sur, notamment, le travail de la Gestapo. Mais comme je le disais tout à l'heure, Vichy est un régime qui a évolué et effectivement, c'est devenu moins un gouvernement national et plus une sorte de client allemand, avec de moins en moins d'indépendance. Et en fait, c'est devenu de plus en plus le fantôme d'un État, le spectre d'un gouvernement.
Alors, votre roman s'ouvre donc sur le meurtre de Gaston, qui se trouve être homosexuel. Je me demandais, en fait, en lisant ce livre, étant donné, bien évidemment, la période et le nazisme qui montait et la chasse aux homosexuels qui était faite aussi à ce moment-là, est-ce que vous savez si les crimes discriminatoires étaient courantes à ce moment-là en France et à Bordeaux?
It was a common thing everywhere in Western Europe, I think, except in limited circles. And of course, in France, between the wars, entre les guerres, a good many of the most celebrated writers were homosexuals or pederasts, as Gide preferred to speak of. But when this corpse is discovered, the immediate reaction of the two policemen who find it is. Good, one of them gone. Lan is more tolerant, in fact, in a sense, it is a distraction, this corpse here, because it is not a sex crime, which it appears to be at first, but it is a political crime. But undoubtedly, the general public prejudice against homosexuals was quite strong, and there is in all the novels a strong element of this, because there is a German officer who is a homosexual and who approaches one of the young friends, one of Alain Lan's younger son's friends.
Oui, en fait, je dirais que cette discrimination-là est en fait non pas chose commune en France, mais en Europe, dans toute l'Europe, excepté bien sûr dans des cercles limités. Et en effet, même depuis l'entre-deux-guerres, évidemment, il y a beaucoup de discrimination contre ce qu'on appelle les pédérastes. Et d'ailleurs, dans le livre, la première réaction des policiers, c'est de se dire, eh bien, en fait, tant mieux, ça nous en fait un de moins. L'âne, lui, est bien sûr beaucoup plus tolérant, ou en tout cas moins fermé. Mais en fait, il s'agit surtout d'un crime, d'un élément de distraction, puisque ça rend... L'action, ça le fait passer pour un crime sexuel, alors qu'en fait, il s'agit d'un crime politique. Donc oui, c'est un élément de distraction. C'est un élément qui reviendra effectivement dans le roman, avec notamment la présence d'un officier allemand qui lui-même est homosexuel et qui va approcher le fils de Jean Lannes, du commissaire Jean Lannes, et qui va du coup resoulever cette question de la discrimination.
Donc effectivement, il s'agit donc d'un crime politique. Comment dire ? Je rebondis sur ce que vous dites, puisque donc là on est au tout début du livre, donc en 1940, donc la France n'est pas encore envahie, mais plus tard dans le roman, en tout cas. Ça va arriver et on va voir l'effet de collaboration. Est-ce que il y avait donc beaucoup de crimes politiques comme ceci pour arranger la guerre, si je peux dire?
It depends on what you mean by a crime, because you can say all war is criminal, but certainly the divisions in France, which became even more sharp as the war came on, and the Vichy invented their own, the milice, their own paramilitary group, meant that there were more murders of people on either side, and the war became nastier. So that eventually, of course, one arrives at the liberation, which is glorious, and the épuration, which is not glorious. There are crimes committed in the last months of the war and the first months, in the last months before the liberation and in the first months after the liberation, which remain appalling and which are a sort of a scar, a cicatrice on the memory for generations to come.
Eh bien, à vrai dire, ça dépend de ce que l'on appelle un crime. Parce qu'en France, bien sûr, la France était divisée. Et de plus, avec les années, Vichy a créé sa propre milice armée, ce qui fait que les meurtres, en fait, de chaque côté de la barre ont énormément augmenté. Et la guerre est devenue, cette guerre interne est devenue de plus en plus méchante, jusqu'à en fait, ce qu'on arrive à la libération, qui était un moment glorieux, et ensuite à l'épuration, qui était un moment nettement moins glorieux. Il y a eu effectivement beaucoup de... une augmentation des meurtres dans les mois avant la libération et les mois qui l'ont suivi. Et ce sont des choses qui... Ça laisse vraiment des cicatrices dans les souvenirs de ceux qui ont survécu.
Alors, vous nous en parliez tout à l'heure de votre personnage, le détective Lanz. Donc, on sait qu'on le doit à Simenon et à Maigret. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a passionné chez Simenon, en tout cas, et ce qui vous a donné, en quelque sorte, envie de lui rendre hommage en créant ce personnage?
No, I don't think the characters are based on Simenon's work. It's a difficult to know where characters come from. Sometimes they come from memory. Even Lan bears a certain resemblance to Maigret, as I said, but he is not really very like Maigret. But I remember walking en marchant les rues de Bordeaux. On cherche des personnages pour le roman. Et même cet après-midi, j'ai fait une petite promenade après que nous sommes arrivés de Paris, et je cherche encore dans les rues, où sont mes personnages? Hein, là?
Je crois que vous avez compris.
Parce que quand on parle d'un roman, on parle le plus souvent, le plus facilement des idées. Mais quand on écrit un roman, les idées existent sur la derrière de la cervelle. Ce qui occupe l'attention de l'écrivain, c'est les personnages et les questions. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'elle dit maintenant? Le romancier Graham Greene a dit une fois que quand il a fini des heures à ce pupitre, ses yeux étaient fatigués. Les yeux fatigués à cause de regarder ces personnages. Et c'est vrai.
J'en profite justement pour faire une petite parenthèse. Puisque là, vous descendez du train, est-ce que vous vous êtes figuré à un moment voir les lieux de votre roman plutôt que Bordeaux, le vrai Bordeaux?
Yes. Pour le premier, nous sommes ici depuis, nous sommes arrivés à 30h30, 14h30. Mais oui, la ville de l'imagination, ce n'est pas exactement la même que la ville réelle. Mais peut-être tous les deux peut exister en harmonie. Peut-être.
Peut-être. Un Printemps noir à Bordeaux est votre premier roman policier. Nous, on vous connaissait plus pour des romans historiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un roman policier?
What made you write a mystery novel, the first mystery novel of your career?
Sorry?
It's the first crime novel in
the
career.
Peut-être. It's the first novel that has a policeman as the central character. But most of my novels have crimes in them. Par exemple, j'ai écrit quelques romans sur les empereurs romains. Plein de crimes.
Oui, donc comme il dit, en fait, c'est son premier roman dans lequel le personnage principal était un policier. Mais en réalité, j'ai déjà écrit beaucoup d'autres romans avec énormément de crimes, et notamment tout ce que j'ai pu écrire sur l'Empire romain. Là, les crimes étaient légion. Petit jeu de mots.
Est-ce que justement, en nous parlant cette fois-ci d'un détective plutôt que d'un personnage, d'un empereur qui a vraiment existé. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés littéraires ou dans l'écriture?
What kind of literary difficulties
you met? In writing this, kind of literary difficulties? Beaucoup. non, en effet, les difficultés sont les mêmes pour chaque roman. Ici, the difficulty of being true to history and true to imagination, and there is the difficulty of getting things right, and there are some things wrong in the novel's factual mistakes, which almost every novelist makes sometimes. An author sends his characters on a journey from the wrong railway station. You know, he might have you taking the Gare du Nord, going from the Gare du Nord to Bordeaux.
Oh.
But I didn't. But there are mistakes. For instance, as the critique of the Sud-Ouest very, very charmingly pointed out, le Sud-Ouest même n'existe pas pendant la guerre. My journalist should have worked on the Petit Girondin. Mille pardons.
Oui, effectivement, il y a beaucoup de difficultés à écrire un roman, mais en fait, pas forcément pour celui-ci, mais pour tous les types de romans, parce qu'effectivement, il faut rester vrai à la fois à l'histoire et à la fois à l'imagination. Et effectivement, on a toujours peur de faire des erreurs devant la réalité, mais comme tous les écrivains, sur des détails, comme par exemple les voyages, quand un personnage va d'un endroit à un autre, il ne faut pas se tromper et dire, par exemple, que le personnage a pris le train à la gare du Nord pour aller à Bordeaux. Ça ne marche pas du tout. Mais effectivement, j'ai fait des erreurs, comme le journal Sud-Ouest l'a pointé de façon tout à fait charmante dans un article récemment. J'ai mentionné le journal Sud-Ouest dans ce livre alors qu'il n'existait pas pendant la guerre. Je m'en excuse.
Alors, vous avez déjà écrit au sujet de la Seconde Guerre mondiale en France. Je pense notamment à L'Homme d'honneur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre attachement à cette période, à la Seconde Guerre mondiale, et à l'histoire de France en général?
You already wrote about the Second World War in A Question of Loyalties. Why are you so obsessed with this period?
C'est difficile. Why are you obsessed? Why do you bang your head against a brick wall? I am interested in a time when politics, because I don't write military, I don't have battles in these books, when politics is important. And if you make the wrong choice, you may be shot. That's quite interesting. And people care enough about politics to fight about them. But also from the point of view of an English-speaking novelist, and I'm Scottish, but the same is true, even more so in England, we have the question, which was not asked of the British, what do you do when you have lost a war? A very difficult question, a very important question. Grâce à la Manche, we escaped that question. But it's an interesting one for me particularly. What do you do when you've lost a war? That's one thing. The other is that people write history and read history knowing what happens. When you read about 1940 in a history book, you know how the war is going to end. But if you were living in 1940, you not only did you not know how the war was going to end, you didn't know what tomorrow would be like. So that people read history in a different direction from the way people live history. And the novel can bring you the idea of living history, that the historian, and I have written history as well, the historian can't.
Alors effectivement, pourquoi cette obsession et pourquoi diable se casser la tête contre le mur sans jamais s'arrêter ? Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette période, ce n'est pas à proprement parler la guerre, la bataille, je n'ai jamais écrit de roman militaire, c'est plutôt la politique qui est importante. C'est vraiment de parler d'une période où, si à un moment on prend la mauvaise décision, on peut se faire tirer dessus. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Et évidemment, je le fais également en tant qu'écrivain anglophone, puisque je suis écossais. Et c'est une question que nous, les Anglais, les habitants de Grande-Bretagne, n'avons jamais eu à nous poser, puisque grâce à la Manche, nous n'avons jamais eu à nous demander qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on perd une guerre. Et c'est une question vraiment primordiale. Et ce qui est également très, très important, c'est de comprendre que quand on écrit l'histoire ou quand on lit l'histoire, on sait ce qui s'est passé. Lorsqu'on lit un roman ou un essai sur les années 40, on sait très bien comment la guerre s'est déroulée, comment elle s'est terminée. Mais seulement, il ne faut pas oublier que les gens qui vivaient à cette époque-là, en France ou ailleurs, ne savaient absolument pas de quoi demain allait être fait et comment est-ce que tout cela allait se clôturer. On lit l'histoire différemment qu'on ne l'a vécu, d'où la fonction, la mission également des écrivains.
Et donc pourquoi avoir placé votre roman à Bordeaux, pourquoi dans cette ville en particulier? Et y avez-vous vécu ou est-ce que vous y avez passé de longues périodes ou est-ce pour une autre raison?
Non, j'ai visité Bordeaux, mais je n'ai pas vécu ici. So as I say, I've visited Bordeaux, but I've never lived here. My Bordeaux c'est une ville imaginée. Ce n'est pas le réel Bordeaux, mais j'espère que c'est un Bordeaux acceptable.
Est-ce que vous savez néanmoins à quoi ressemblait Bordeaux dans les années 40? Et pouvez-vous nous en faire une petite description?
Yes, up to a point. But I suppose there are a number of people here who may know better what it was like in the 40s. What I know is from reading and imagination and trying to put oneself in the position of people living through that experience, living. I think there are other things perhaps which I don't get into the novel, which I should have. I don't think I make enough, for instance, of the shortage of food and the rationing and the strain that put on people. Because I noticed in reading back over the novel that although there is some talk about this, Lan and his family seem to eat quite well. But then most novelists like to give their characters good food.
Effectivement, je sais à quoi ressemblait la ville à cette époque, mais en tout cas jusqu'à un certain point, et je suis certain que d'autres personnes dans cette salle en fait connaissent bien mieux la ville, même celle de cette époque, que moi. En fait, moi, je connais cette ville surtout grâce à la lecture que j'en ai faite dans les livres et aussi à l'imagination. Et ce qui est vraiment plus important pour moi, c'est de se mettre à la place de personnages à l'époque qui vivent cette expérience bordelaise en 40. Et en fait, c'est vrai qu'en le relisant, je me dis que j'ai certainement oublié des choses. Il y a certainement des choses qui manquent. Et notamment, je me demande si j'ai suffisamment parlé du rationnement. Parce qu'en relisant ce livre, je me rends compte que eh bien, mon personnage et sa famille se nourrissent plutôt correctement. Mais vous savez, c'est un truc d'écrivain. Les écrivains aiment bien donner à manger à leurs personnages.
Ce qui est assez rigolo pour nous, Bordelais en tout cas, en lisant ce livre, c'est qu'il est fait mention de rue, de quartier. Et c'est vrai que bon, on sait où on est quand on lit ce roman. C'est vrai qu'on, bon, du coup, on n'a pas besoin de s'imaginer les lieux parce qu'on y est déjà. comment justement, enfin, vous vous êtes aidé pour localiser les passages de votre roman? Est-ce que vous vous êtes aidé d'une carte ou est-ce que vous avez fait référence à des rues que vous aviez visitées vous avant?
I used a map, but I used a map for I spent a few days walking in Bordeaux so that I knew a lot of the streets, but I had a map with me when I was writing it. And sometimes it was inconvenient because I wanted to move my character from one place to another, and the map told me I couldn't do it that way.
Oui, effectivement, j'ai utilisé une carte, mais en fait, au départ, j'ai surtout marché pendant quelques jours dans Bordeaux pour voir à quoi les rues ressemblaient. Et ensuite, effectivement, j'ai utilisé une carte pour l'écriture, pour la cohérence. Mais honnêtement, parfois, ce n'était absolument pas pratique, puisque quand je voulais emmener un personnage d'un point A à un point B, eh bien, la carte me disait que je ne pouvais pas le faire comme je le voulais.
And if I might, I think also I made Bordeaux a ville plus petite. Que c'est en réalité. Mes personnages move in dans un quartier restrictif, ou restricté. Mais c'est pour la convenance du roman.
Bien sûr.
Alors, Printemps noir à Bordeaux est sorti là chez nous tout juste. il est sorti par contre en Écosse en 2010, si je ne m'abuse. Et il est suivi, donc comme Monsieur Massy nous le disait tout à l'heure, il y aura 3 autres volumes après celui-ci. Est-ce que vous avez réussi à sortir de ce roman ou est-ce que vous y pensez encore?
Dream, no. Think, yes. Rêve, non. Pensez, oui, et j'ai écrit peut-être 30 000 mots d'un roman, le premier enquête de l'âne, qui c'est dans la campagne dans les années 20, 25, 26. Mais je ne sais pas s'il arrivera à la fin de cette enquête. Parce qu'en ce moment, je ne peux me souvenir de qui est le meurtrier.
Alors, à la fin de ce premier opus, vous nous laissez un petit peu orphelin, on va dire. Est-ce que vous pouvez, voulez nous parler de ce qui va se passer ensuite?
Ah, yes. maybe I should read this too. Yeah? I find it. Yes. Le deuxième, c'est été sombre à Bordeaux, avec un cadavre découvert dans un jardin public. Un crime politique apparemment, mais qui trouve des racines dans une histoire familiale compliquée. Et l'occupation devient plus dure, même en cet été duquel l'Inde se rend compte qu'avec l'invasion de l'Union soviétique, Hitler s'est lui-même condamné. Maintenant, le fils aîné, Dominique, est employé à Vichy, Alain et ses amis Jérôme et Léon, qui est juif, caresse l'idée de la résistance avant de s'y engager pour de bon. Et un agent des services secrets français utilise Léon comme appât pour compromettre un officier allemand. Et Alain se trouve en danger. Et oui, j'arrive à trois romans, mais la deuxième, ça suffit pour aujourd'hui peut-être.
Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques révélations. Avant de passer à vos questions, je voulais vous remercier, Monsieur Massy, d'être venu de si loin pour nous présenter votre roman. Merci aussi à Lucie pour la traduction. Et on espère donc vous retrouver prochainement avec donc Un été noir à Bordeaux, le deuxième volume de Monsieur Massy.
Merci beaucoup.
We hope to see you soon for, you know, the next novel. Well, that would be very nice. Thank you.